À CJSO 101.7 avec Luc Deloncourt. À deux, c'est mieux. C'est reparti.
Aujourd'hui, à deux, c'est mieux. Le bonheur de recevoir Claude Maillard. Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Ça va bien, oui.
On va mettre au clair une chose. C'est pas la retraite.
Non, c'est pas le bâchement.
Parce qu'on a beaucoup parlé de ça.
Oui, mais ils ont laissé RDS. Ouais, non, disons que je suis même trop jeune pour prendre ma retraite, comme tous les gens qui sont ici. Mais c'est 50 ans de carrière, puis je dis que pour rester dans le sport, je suis agent libre. C'est parce que moi, depuis 31 ans que je travaille à RDS, je leur ai donné fidélité complète. J'ai refusé toutes les offres qui venaient de l'extérieur pour me concentrer sur le travail à RDS. Et là, ben, il restait avec la pandémie, avec il y avait moins de choses à faire. Et j'ai fait 21 fois les Jeux olympiques. Et les prochains Jeux sont en 2 ans et demi. Alors là, un des vice-présidents me dit, « Ouais, mais dans 2 ans et demi, on va peut-être donner une chance à un jeune. » Ah, j'ai dit, « Est-ce que j'ai fait quelque chose de pas correct? » Ils ont dit, « Non, t'es le gars le plus préparé qu'on a jamais eu, mais on veut donner une chance à un jeune. » J'ai dit, « Pas de problème, mais j'ai dit, j'attendrai pas 2 ans et demi à rien faire. » Fait que j'ai dit, « Ma fidélité, là, ça n'existe plus. » Ouais, mais on veut te fêter. Ben, je veux pas de party. Ouais, mais on va faire un tour d'honneur. Ils ont appelé ça comme ça pour toutes les émissions phares, tu sais, durant la journée au Centre Bell. Ouais. Et j'ai dit, à une condition, c'est pas ma retraite, c'est mes 50 ans. Fait qu'ils ont accepté, je dois dire qu'ils ont très bien fait ça, ils ont été très gentils. Ils ont même rebaptisé un studio, le studio Claude Maillot. Fait que je trouve ça... en blague, ils m'ont dit, ben, t'amèneras tes petits-enfants, ils vont être impressionnés. J'ai dit, oui, sûrement. J'en ai 5, puis ça leur prend pas mal pour être impressionnés. Parce que c'est normal, je veux dire, c'est leur vie, tu sais, j'ai toujours... Tu sais, pour eux, moi, là je suis le papy, c'est tout. Tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un d'important, mais parce qu'ils ont toujours vécu avec ça. Tu sais, même, je me souviens que ma petite fille qui me voyait, puis la majorité de mes émissions sont toujours en direct. Et là, celle-là était enregistrée, puis là, elle regardait la télévision, puis elle me regardait, puis elle regardait la télévision, puis elle me regardait. Puis là, elle disait, voyons, il y a quelque chose qui marche pas, là. ça va pas, là. Fait que la vie de famille, pour moi, c'est ce qui est le plus important.
Il y a eu plein d'hommages lors de cette journée-là. Plein de gens que vous aimez, que vous connaissez, avec qui vous avez travaillé. Il y a eu Chantal Maccabée, il y a eu Ron Fournier, mais il y a eu votre fils aussi qui a fait une vidéo et qui vous a caché ça.
Oui.
J'imagine que ça fait partie des témoignages touchants. Parce que quand on fait ce métier-là, on n'est pas beaucoup là. Donc, notre fils reconnaît ça, il y a un beau touchant.
Je suis tellement fier de mes deux enfants. Mon fils est avocat depuis 16 ans. Et il est en charge en Montérégie de la... Écoutez, il y a des avocats à ses services, il y a des médecins, il y a tout. Il s'occupe d'à peu près la jeunesse en Montérégie. Alors, je suis très fier. Ma fille est maintenant adjointe administrative au Collège Beaubois à Pierrefonds. Elle adore son travail. Puis elle a eu 2 garçons. Qui m'ont fait vieillir un petit peu parce qu'il y a eu 18 ans cette semaine. Le plus vieux, je pensais que ça faisait 5 ans qu'il avait 18 ans. Tu sais, quand ils ont 14 puis ils s'en vont sur 18, là, c'est à peu près ça. L'autre a 15, puis j'ai une princesse de 11 ans, un petit gars de 8 ans, puis une joie immense. À 5 ans, Justine, belle, fine. Vous avez certainement des petits-enfants. Ils peuvent pas être plus beaux et plus fins que les miens. Ils peuvent peut-être peuvent pas être aussi fins, mais ils peuvent pas être plus, parce que c'est extraordinaire.
50 ans de carrière, alors que c'était même pas ça, le plan de départ.
Le plan de départ, j'ai jamais pensé... D'abord, je pensais pas que j'avais une voix de radio, fait que jamais j'ai pensé ça. J'étais à McGill en train de finir mon droit. Et j'avais lu dans la revue Sports Illustrated aux États-Unis qu'il y avait une émission qui s'appelait Huddle, avec 3 jeunes qui discutaient de sport. Et un de mes compagnons à McGill, c'était Pierre Bélan, qui était nouvelliste à CKAC. Lui a très bien réussi, il a acheté le poste d'ailleurs, il n'y a aucun problème pour lui. Et je lui avais suggéré, j'ai dit, auriez fait ça à CKAC, ça serait intéressant. J'oublie pas, là, j'ai jamais pensé que j'étais impliqué, là. Et durant le baseball, ils ont fait une annonce en disant, si vous connaissez votre sport, faites application. Et il y a beaucoup de monde qui ont appliqué. Comme toi, tu aurais aimé ça, faire ça.
Sûrement.
Et puis là, ils sont revenus à la charge. Viens faire un tour. Fait, j'ai refusé 3 fois. Puis la 4e fois, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que ça a de l'air, un poste de radio. Fait que je suis allé là, et il y avait Claude Mouton à l'époque, Jean-Paul Chartrand senior et Roger Turcotte, qui faisaient des blagues aux trois cloches. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, de douce mémoire. Et là, les patrons ont dit, bien, posez-lui des questions. Et Jean-Paul, il dit, voyons, non, ça fait 3 ans que je le suis au hockey, au baseball, au football. Il connaît son sport. Ils ont dit, posez des questions quand même. Fait qu'ils m'ont posé des questions. Et à ma grande surprise, après ça, ils ont dit, bon, ben écoute, on t'offre 1 heure par jour, 5 jours par semaine. Ben, aïe, aïe. Mais moi, je suis avocat, là. Je finis ma cléricature au bureau chez Affinion Prud'homme, qui n'était pas un gros... À l'époque, c'était un gros bureau. On était 25 avocats. Aujourd'hui, ce serait un petit bureau. Mais j'avais une pratique tellement intéressante, tu sais, criminel, civil, air and space law, travail, etc. Et après ma première année de droit au bureau, on m'envoyait plaider des enquêtes préliminaires pour meurtre puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, je veux dire, j'avais à cœur ce métier-là. Alors, j'ai commencé à faire les amateurs de sport et j'ai choisi 2 autres gars que je connaissais pas du tout. Un faisait des enquêtes au bien-être social. Et l'autre était doorman dans une discothèque. Alors, vous voyez, c'était 3 genres assez différents. Et malheureusement, celui qui faisait des enquêtes connaissait son sport. Mais quand le micro était ouvert, il paniquait. Je me souviens de la première émission. Philippe de Gaspé-Beaubien, qui était le propriétaire, mentionne, « Bon, ben, on a une nouvelle émission pour vous. On a Claude Mayotte avec nous, Alain et Bernard. » Fait que là, moi, je rouvre l'émission. Puis là, quand je viens pour donner la parole à Alain, il me fait signe, « Non, 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 il était trop nerveux. » Fait qu'après 6 semaines, ils ont décidé de l'enlever des ondes. Ils ont dit, on va en trouver un autre. Ils ne cherchaient pas gros, mais quand même. Puis après 6 mois, c'est Bernard qui, malheureusement, a été congédié. Et tout ce temps-là, il me disait, on va en trouver un autre. Mais le problème, c'est qu'on est tombé numéro 1 à Montréal, avec 145 000 au quart d'heure. C'est du monde, ça.
Oui.
Ils n'ont jamais eu ça maintenant. Il faut dire que la compétition était moins féroce à l'époque, parce qu'à la fin de journée... La télévision n'avait pas nécessairement beaucoup d'émissions de sport, tandis que là, ils en ont beaucoup. Mais 145 000 au quart d'heure, quand je gagnais 50 piastres par semaine, ils ont fait de l'argent avec moi, et je vous prie de me croire. Mais je ne connaissais pas ça. Alors moi, ils m'offrent 50 piastres par semaine. Alors, je partais en métro, je lisais le journal le matin, je lisais l'autre journal le midi. Je partais, j'allais au poste faire mon émission, puis le soir, ben, je revenais chez nous. Mais là, Claude Mouton est appelé pour devenir directeur des relations publiques au Canadien. Pardon. Alors, il m'offre le poste de directeur des sports de tout le réseau. Il dit non. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, moi, je travaille au bureau d'avocat. Ouais. Mouton revient à la charge. Il dit, hey, c'est une occasion extraordinaire. Tu pourras retourner au droit quand tu voudras, etc. Donc, à la fin de compte, j'ai accepté. Et là, ben, j'étais en charge des postes Québec, Trois-Rivières, Gatineau, tu sais, c'était très intéressant. Mais en plus, il me demande de faire le matin avec Jacques Proulx. Et Jacques Proulx, qui est un icône de la radio, avec Jacques Lebrun, c'était une école de vie extraordinaire. Alors, je faisais le matin, je partais de chez nous à 4h30 le matin, je faisais l'émission du matin, les conférences de presse le midi, les amateurs de sport en fin d'après-midi, puis je faisais le hockey à Radio-Canada le soir. Ça fait des horaires, mais ça fait de l'expérience fantastique. Une chance que j'avais une femme compréhensive, parce qu'on n'avait pas d'enfants à cette époque-là. Ça fait 52 ans qu'on est mariés, puis ça fait 58 ans qu'on se connaît. Fait que, comme je disais à mon beau-frère, je dis, c'est sûr que des fois on met de l'eau dans notre vin, mais on boit encore du vin. Fait que c'est déjà beaucoup. c'est déjà beaucoup. T'sais? Alors, ça a été ça, mes débuts de carrière. Ça a continué.
Ben, pas de problème. Est-ce que ça a été difficile de décider de quitter le bureau d'avocat? Parce que évidemment, c'est une sécurité d'emploi hallucinante. Il y a la suite plus tard, il y a un fonds de pension intéressant quand on fait cette carrière-là. Est-ce qu'on hésite longtemps?
Ça n'a pas été difficile, je vais te dire pourquoi. D'abord, quand les ratings sont sortis, les photos ont commencé à apparaître dans le journal. Et là, les cinq associés me font passer dans la grande salle. Puis là, ils ont dit, Claude Mayotte à la radio, c'est toi, ça? Je dis oui. Ils ont dit, voyons donc, on t'écoute le soir, mais on n'a jamais fait le lien avec toi. Et j'ai dit, est-ce que mon travail a été affecté? Ils ont dit non. Bien, j'ai dit, si mon travail n'a pas été affecté, j'aimerais ça que vous me donniez la chance de continuer l'expérience. Et si un jour, mon travail est affecté, je vais laisser la radio, parce que c'est pas ça mon avenir. Alors, c'est pour ça que j'ai accepté le job de directeur des sports. Et ça a fait un temps, Mais là, un temps, avec tous ces jobs-là, j'avais plus le temps d'aller au bureau. Fait que j'ai pris un congé sans solde et je me suis concentré sur la radio et la télévision est arrivée, avec surtout la soirée du hockey au début. Et après ça, ben, il y a eu une incursion dans le domaine des variétés avec Bon Dimanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'émission Bon Dimanche, le dimanche. Moi, j'ai été entre André Robert et...
Raine-Malo.
Et ça a été fantastique. Je recevais les plus grands artistes. Je me souviens d'une entrevue avec Gilbert Bécaud. Tu sais, entre vous et moi, là, c'est bien beau interviewer Wayne Gretzky, mais Gilbert Bécaud, connu à travers le monde, hein? Et là, je me dis, quand ils m'ont dit, tu vas avoir Gilbert Bécaud, je me dis, bon, son complet bleu, sa cravate à poids, ça doit faire 522 fois qu'il répond à ça. Je ne peux pas y poser ça. Je me dis, c'est ridicule. Alors, le réalisateur me dit, fais-nous 5 minutes. Il n'y a pas besoin de faire du temps. Ses shows sont vendus. Il vient juste pour nous faire plaisir, etc. Fait que M. Bécaud arrive. Je dis, M. Bécaud, j'ai dit, c'est un honneur de vous recevoir, puis tout ça. J'ai dit, je pense que le Québec apprécie que vous veniez faire votre tour, même si vous savez que déjà tout est vendu. Oh oui, bien là. Fait que là, je pense à une chose, puis je dis, M. Bécaud, je dis, vous êtes connu à travers le monde. Qu'est-ce que vous faites pour relaxer? Parce que j'ai dit, vous ne pouvez pas aller nulle part sans que les gens vous reconnaissent. Mm-hmm. Oh, c'est une bonne question. Mais il dit, les gens sont très respectueux. Ils me laissent de la place. Et un an et demi avant, la chance que j'avais eue, j'étais au Club Med, et Gilbert Bécaud était là avec son fils Pilou. Puis il avait fait un jam session, puis etc. Alors, tout bonnement, je dis à M. Bécaud, ben je vous crois, parce qu'il y a un an et demi, j'étais au Club Med, et là, il est là. Et là, il me regarde, puis il dit, oui, c'est vrai. Il prend sa chaise, puis il retourne vers moi. Là, il oublie les caméras. Là. Et là, il parle. Comment c'était intéressant, telle chose avec Pilou, puis pourquoi qu'il faisait telle chanson, puis etc. Puis là, mon réalisateur disait toujours, continue, ça va bien, continue, ça va bien. Au bout de 15 minutes, il dit, Claude, on est en retard d'un commerciaux, là, il faudrait que...
Oui.
Il faudrait que tu sortes. Puis je dis, Monsieur Bécaud, j'en ai même pas eu le temps de parler de votre spectacle. Il dit, c'est pas grave, il dit, c'est vendu, les gens savent quelle chanson m'a chanté, j'ai apprécié mon entrevue, merci beaucoup. On s'en va à Pau. Le réalisateur, je ne sais pas ce que tu as fait avec, mais j'ai été chanceux parce que je l'avais vu avec le public. Tu sais, des fois, tu parais bien, mais dans le fond, c'est parce que le timing est bon.
Ouais. Oh oui.
D'autres fois, tu fais des entrevues. J'avais fait une entrevue avec Nicole Croisil, qui avait son petit chien sur elle, puis elle répondait par des oui, par des non. Là, tu patines.
Oui, oui, c'est long, ça.
Fait que c'est ça.
On va parler de Tiger Woods. Ben, parce qu'on évidemment, vous les avez tous rencontrés, ou à peu près, c'est... ces joueurs étoiles-là, de peu importe le sport.
De peu importe le sport, c'est ça qui est... Moi, je me sens tellement privilégié d'avoir fait ce métier-là. Écoutez, vous me parlez de Tiger Woods. Je l'ai rencontré 24 fois. Et Tiger Woods a été généreux. Et le seul regret que j'ai, c'est de ne pas en avoir profité assez. Pas profité dans le mauvais sens du terme, mais d'avoir...
savouré ça,
d'avoir ce savouré ces moments-là. Quand on dit que Tiger Woods accepte des entrevues après chaque round. Et pourtant, je me souviens, le premier tournoi que j'ai fait avec Tiger Woods, c'était à Glen Abbey, à Toronto. Et le PGA nous avait dit, Tiger donne pas d'entrevue. Il va faire un scrum le mercredi, mais après ça, à chaler les pus, il donne pas d'entrevue. Naturellement, mais mon réalisateur, les adjoints, ben, voyons...
Ça est tout pareil.
T'es capable. Ben oui, t'es capable. On va me faire revirer de bord, mais c'est pas grave. Alors, après la première ronde, et Tiger ne joue pas bien, il joue la normale. Pour lui, c'est pas bon. Fait que je m'avance, puis j'ai dit, Tiger, do you mind? Oh, he's OK. Fait que je fais l'entrevue, et ça va bien, puis j'y souhaite bonne chance pour le lendemain. Le lendemain, les Anglais commencent à critiquer un peu. Comment ça fait que lui, il l'a eu, puis nous autres, on ne l'a pas, etc. Le lendemain, il pleut, c'est pas beau. J'ajoute un parapluie, puis et là, il finissait au 9e trou. Tu sais, à chaque ronde, il change 1 à 18 ou 10 à 1, à 9. Alors, je suis en bas de la côte à Glen Abbey, puis j'ai dit, Tiger, il vient direct à moi, avec le parapluie. Puis là, je dis, au 9e trou, il me semble que you were a little bit tentative. Tu sais, il me semble que tu n'as pas frappé comme il faut. Et là, il me dit, j'ai pas été tentative, et j'ai manqué mon coup complètement. Là, il s'est rendu compte que je restais pas dans l'entente à regarder, il a fait un beau gay là, il a fait un birdie. Je les suivais sur le terrain. Et eux autres, ils apprécient ça parce que c'est facile de dire que si tu as fait au 8e, tu as fait un beau gay. Ça arrive, c'est un beau gay. Mais là, il a compris ça. Alors là, il part, puis hein, il en met. Puis là, il tousse à un certain moment. Puis là, j'ai dit, Tiger, you seem under the weather. I'm going to let you go for the weekend. Ah, oh, il dit, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, Claude. Il s'en va là. Là, les Anglais, là, ils jappent.
Ben, c'est sûr.
Alors là, on a un meeting le samedi matin, et là, on me dit,
là, c'est fini.
Il faut que les Anglais l'aient avant toi. OK. Fait qu'en bas du où ils rentrent leur score, je suis là. Les Anglais sont à côté de moi. Tiger s'en vient direct à moi. Je suis obligé de dire, il faut que tu y ailles là avant. Mais moi, j'avais averti mon réalisateur, mets un tape. Quand le joueur arrive, tu enregistres. Passe-les trois semaines plus tard, ça ne me dérange pas. Mais ne fallait pas attendre. Correct. Il s'en va aux Anglais, puis il attend. Fait que le gars de la PGA, il dit, tu es prêt, toi, Claude? Je dis, oh oui, je suis prêt. Tiger, va voir Claude. Tiger s'en vient. Fait que c'est trois jours de suite, la quatrième journée, là. T'sais, là, ils ont dit, là, même pas à Claude.
Oui, c'est ça.
Pas d'entrevue, puis s'il gagne, faut qu'il vienne faire recevoir le trophée sur le green, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cette dernière ronde-là, il est près de la trappe, puis là, il décide de passer par-dessus la trappe, par-dessus l'eau, pour aller au green. Puis moi, je suis là sur le bord du green. Puis là, quand il fait ça, puis il fait un putt, puis il gagne le tournoi. Quand il a fini, il descend l'escalier, puis là, je dis, Tiger, pourquoi t'as pris cette chance-là? J'ai dit, t'as juste à la mettre dessus, puis tu vas aller en prolongation. Je voulais pas aller en prolongation, puis j'ai pris un fer 6 au lieu de faire 7. Fait que j'enlevais l'eau du chemin, puis etc. Puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Ben, parfait, merci. Là, il s'en va chercher son trophée. Tu penses que je suis pas content? Les quatre fois. Après ça, l'autre tournoi, c'est à Montréal, au Royal Montreal. Aussi gentil. Et il y avait un gars qui s'appelait Nick Price, qui a été pendant deux ans le meilleur golfeur au monde. Et là, Nick Price, il pratique, puis il y a du monde au Royal Montreal, là, c'est incroyable. Et moi, je suis au premier tête de départ, puis j'attends. Et là, Nick Price s'en vient, puis là, d'un coup, il me voit, puis il dit, « Bonjour, Claude, comment ça va? » Là, le monde applaudit, comprends-tu, Nick Price, c'est tellement gentil, ce monsieur-là. Et c'était la fête de son fils, fait qu'après la ronde, il devait partir en avion tout de suite. Puis on faisait des entrevues dans le stationnement, imagine-toi, fait que je le regarde. Oh, il dit OK. Mais il dit, je vais être obligé de faire ça short and sweet, cinq minutes. Je ne peux pas faire autrement qu'apprécier ces gars-là. Jack Nicklaus, le grand Jack Nicklaus qui vient de refuser en passant 100 millions pour être porte-parole du tournoi en Arabie Saoudite. Faut-tu qu'il en fasse de l'argent pour refuser 100 millions? Incroyable. Alors, on est à Winnipeg, championnat senior. Et là, je le regarde sur le terrain de pratique. Il y a trois drivers, puis il pratique. À la fin de la ronde, j'ai dit, monsieur, j'ai dit, Jack, j'ai dit, avec tout ce que tu as gagné, tu es encore en train de pratiquer trois drivers. Là, il me prend par l'épaule et il dit, you know us, senior, we're always trying to improve. Mais j'ai dit, je t'ai déjà entendu dire qu'une balle bien frappée, le vin ne touche pas. Il dit, c'est vrai, mais il dit, aujourd'hui, je n'ai pas frappé des très bonnes. Fait que là, il commence à signer des autographes avec mon parapluie. Là, mon caméraman, il dit, hey, va chercher ton parapluie. Je dis, es-tu malade? Moi, je vais aller chercher le parapluie des mains Nicklaus. De Jack Nicklaus, qui est en train de signer les autographes, qu'il garde mon parapluie.
De chez nous.
Il l'a peut-être mis dans la poubelle après, je ne sais pas, mais c'est pas grave, ça. Fait que tu vois que rencontrer ces gens-là, c'est un privilège.
21 Jeux olympiques dans votre carrière.
Oui.
Les premiers doivent être quand Montréal. Même en partie les plus marquants, parce que c'est Montréal, puis c'est tout ce que ça représente.
Oui,
là.
Mais c'était à la radio.
C'était pas quand même.
Cette fois-là. Mais c'était, et j'avais une équipe extraordinaire, je pèse mes mots. Les deux Hood, Pierre et Paul.
Qui commençait.
Qui étaient de Gatineau. C'est parce que l'idée que j'avais, moi, c'était, OK, on va faire les Jeux olympiques, mais puisqu'on est un réseau, on va prendre une personne de chaque poste du réseau.
Les meilleurs de partout.
Qui sont des vedettes dans leur coin. Ben, ils vont venir à Montréal, puis ça va faire un rayonnement à travers la province.
Ben oui.
Michel Villeneuve à Québec. Tu sais, des éléments comme ça. Yves Letourneau, Michel Lacroix, que tu as déjà rencontré. Que Michel était l'annonceur au Stade olympique. C'est lui qui coachait tous les annonceurs sur les sites. Alors, on avait une équipe, et à 5h30 l'après-midi, tout ce beau monde-là revenait en studio. Et là, on faisait les amateurs de sport, mais c'est eux qui racontaient les anecdotes de la journée. Rire comme on a... C'était incroyable. Roland Mayotte qui parlait le Mongol, un tel, parce qu'il faisait la lutte olympique, etc. Et Pierre et Paul s'amusaient à faire des imitations pendant ce temps-là, fait qu'on riait tout le temps. D'ailleurs, en 88, c'est Pierre Houde qui me réveillait le matin avec une voix différente à chaque matin. Parce que moi, je travaillais à tous les jours comme chef d'antenne, mais lui, il travaillait à tous les deux jours au hockey. Et le matin, le premier matin, il me réveille, tu sais, puis il dit, là, oh, ouais, qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai dit, je m'en vais en onde, là. Ben, il dit, ce soir, on soupe ensemble à 10h. Je dis, oui, mais j'ai dit, j'ai trouvé un restaurant, c'est un Québécois, on va aller manger là, tu sais. Mais là, j'avais hâte qu'il me réveille le matin pour savoir avec quelle voix. C'était la Poune, c'était Juliette Pétry, c'était, ah, mon petit noir, comment ça va? Puis, c'était le bonheur total, comprenez-vous. Puis, j'allais travailler en soulier au mois de février parce qu'il y avait le Chinook. Fait que c'était des expériences de vie fantastiques. Écoutez, à Lake Placid, en 80, les 45 premières minutes de l'émission, j'ai fait du ad-lib, pas d'image, parce qu'il y avait une tempête, il n'y avait pas de ski. Et on devait faire le ski en direct, puis le passage de vitesse en différé. Puis à 10h, à 9h45, c'était Eric Hayden et Gaétan Boucher. Et je les vois commencer sur la ligne de départ, puis je dis au réalisateur, parce que je ne peux pas y parler, je suis en onde. Parce que le directeur de plateau, il me faisait ça, je pensais que c'était 5 secondes, puis là, il disait minute. Puis ça a fait 45 minutes comme ça.
Et là, longtemps.
On est allé à la course en direct. Je vous rappelle qu'Éric Hayden a gagné 5 médailles d'or à ces jeux-là, puis qu'il était à boucher sa médaille d'argent. Ouais. Et à la fin, on a eu un souper avec les gens de CTV, et ça, c'est un des plus beaux moments de ma carrière. Quand je suis arrivé au souper, les gens de CTV m'ont applaudi parce qu'ils savaient ce que j'avais fait. Tandis qu'en anglais, Lloyd Robertson, qui est un maître, a envoyé ça à Toronto. Lui,
on n'était plus là.
Il remplissait pas. Mais nous autres, on ne pouvait pas envoyer ça à Télémétropole. Ça nous fait vieillir, ça. On ne pouvait pas envoyer ça, c'était fermé.
Alors, tu sais, t'es pogné là.
T'as pas le choix, là. T'sais. Mais ce pas de choix-là m'a donné confiance qu'à Radio-Canada, aux soirées du hockey, j'ai déjà fait une émission avec Richard Garneau, le décor est tombé pendant qu'on était en onde.
Okay.
Et là, Garneau fait un saut comme ça, puis moi, je dis, ben, j'espère que le Canadien va être meilleur que notre décor. Il est parti à rire, comprends-tu? Il faut, je le répète encore, on est privilégié de faire ça. Le monde voudrait qu'on soit à notre place. Il voudrait être à notre place. Tu n'as pas le droit d'arriver en onde pas préparé parce que faut que tu respectes le public. Puis moi, je suis peut-être trop préparé, mais ça ne me dérange pas. J'ai peut-être du stock pour une heure, je vais en dire juste cinq minutes, mais au moins, s'il arrive un pépin, je vais être là.
Vous avez tout couvert, je l'ai dit tout à l'heure, tous les sports. Qu'est-ce qui a fait le plus de peine, le départ des Nordiques ou le départ des Expos?
Oh mon Dieu! Je te dirais que les deux m'ont attristé beaucoup parce que j'ai vécu la belle rivalité. Quand je dis la belle rivalité, des fois, ça exagérait là, entre Québec et Montréal. Mais le départ des Expos, je me souviens du dernier match que j'étais avec Gary Carter, puis on s'est mis à pleurer. Puis là, j'ai compris toute la... Parce que Gary Carter est un bonhomme qui était très près du public. Au camp d'entraînement, là, il venait au... la terrasse au Kif, puis il parlait aux gens. Il y avait d'autres joueurs qui venaient jamais rencontrer le public. Gary Carter, il y a bien des joueurs qui le jalousaient parce qu'il était populaire, mais avec raison, lui, il pensait au public, comprends-tu? Il était comme la Poune, il aimait son public. Mais c'est ça, Gary Carter. Alors, quand les Expos sont partis, moi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je me souviens du premier match que j'ai été au Parc Jarry. Je me souviens des grandes vedettes qui ont passé. Puis, c'est le fun, le baseball, parce que tu relaxes. Puis, oh, juste une petite anecdote au baseball. Je fais l'émission avec Claire Lamarche, et le titre, c'était « Croyez-le ou non, j'aime ma belle-mère ». Et c'est moi qui l'ai invité. Et c'est pas une blague, parce que c'est vrai, j'aimais ma belle-mère. D'ailleurs, j'ai gagné ma belle-mère avant de gagner ma femme. Et donc, je fais l'émission, j'aime ma belle-mère, etc. Puis je raconte toutes sortes d'anecdotes. Et le soir, il y a un match de baseball. Et je monte l'escalier, et là, j'entends, tu pourrais être comme lui, tu pourrais l'aimer, ta belle-mère aussi. Fait que je me retourne, puis le gars, la femme a parlé à son mari, puis son mari, il dit, Claude, tu m'as mis dans la marre. C'est pas l'amour fou que ma belle-mère. Ben, c'est ça. Moi, je l'aime, ma belle-mère. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fait que les Expos sont près de mon cœur.
Vous avez été préposé au bâton pour Hank Aaron.
Oui, monsieur.
Ça, il y a des chances dans une vie. Les amateurs de baseball, là, Hank Aaron, c'est dans les meilleurs
dans
joueurs de l'histoire.
Dans son dernier match
là.
À Montréal, il jouait pour les Braves d'Atlanta, tout le monde le sait. Il venait de battre Babe Ruth, etc. Alors, moi, je faisais les amateurs de sport, puis j'appelle les Expos, puis j'ai dit, j'aimerais ça être bad boy pour les Braves d'Atlanta. Puis ils ont dit, écoute, là, tu t'en demandes pas mal. Bien, j'ai dit, demandez-la, Ils ont demandé au coach, puis le coach il a dit « Oui, mais je veux pas qu'il dévoile des secrets. » Fait que là, je parle au coach, M. Cox, à cette époque-là.
Bobby Cox.
Non, 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 il n'y aurait pas de secret. Je veux juste faire vivre au monde. Qu'est-ce que ça fait un
ouais, ouais.
Et là, les joueurs sont passés le mot. Parce que le coach était surpris de voir des journalistes autour du bad boy.
Oui.
Je comprenais pas ça.
Oui, d'habitude, on s'en occupe pas bien.
C'est la première fois que le bad boy donne des entrevues. Là, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'y avais dit, puis lui, il avait dit ça aux joueurs. Fait que là, les joueurs... Puis au Parc Jarry, le vestiaire était au bout du champ droit. Alors là, les joueurs disaient, « Peux-tu aller me chercher tel bâton? » Là, je partais en courant, j'allais chercher tel bâton, je revenais. L'autre, « Pourrais-tu serrer mes souliers? » Il me semble qu'ils sont pas très
prêts. Ils ont fait exprès. Là.
Je faisais toute la job. J'allais chercher les casques, j'allais chercher les bâtons. À la fin de la partie, je me dépêche, parce que jamais j'ai demandé une photo à un joueur. Je me dépêche d'aller voir Hank Aaron, puis je dis, « Monsieur Aaron, j'ai dit, on est tellement heureux de vous avoir vu à Montréal, etc. J'aimerais ça avoir une photo. » Ils disaient avec plaisir, prennent la photo, puis ça. Je la cherche, cette photo-là. Elle est peut-être à l'entrepôt, je ne le sais pas, mais j'aimerais tellement ça la retrouver. Mais j'ai une photo avec Hank Aaron, habillé en joueur de baseball, comme les Braves d'Atlanta. Fait que quand tu me demandes, tu étais bad boy, oui, j'étais bad boy, j'en suis fier.
Je parlais des frères Richard, parce qu'évidemment, ça a été Maurice Richard, ça a été votre idole.
Maurice Richard, ben, je suis pas original.
Non, ça a été l'idole de Vince Lombard.
L'idole du Québec complètement. Alors oui, Maurice, et moi, j'ai eu le privilège de l'avoir comme président de mon équipe de baseball pendant 9 ans. Alors Maurice venait pratiquer avec nous le samedi, puis prenait sa douche avec nous autres. Là, c'est mon idole, puis il est là. Tu sais, je veux dire, c'est fantastique. Et après ça, ben, j'ai joué souvent au golf avec Maurice parce que Maurice, comme j'ai dit, c'était l'idole. Mais en même temps, moi, mon père, c'est lui qui a fondé Marché d'aliments métro. Et quand on faisait des tournois, il invitait toujours Maurice, puis comme par hasard, je jouais avec lui. Quel bonheur.
Ben oui.
Mais après ça, il y a eu Henri. Bien, Maurice, moi, vous dire bien honnêtement, j'ai 8 ans, il demeure sur la rue Péloquin, moi, je demeure en Sic, puis j'allais m'asseoir sur une roche devant maison.
Juste pour le voir sortir?
J'attendais qu'il sorte. C'est pour vous montrer comment c'était mon idole. Puis après ça, il devient mon président. Après ça, je joue avec ses fils au hockey et au baseball. Je vais jouer au pool, je suis dans son sous-sol. Maurice Richard. Puis Henri Richard, c'était bien spécial parce que quand j'ai eu fini de me prendre pour un joueur de hockey, j'ai joué dans la Ligue des Pressions. Et mon joueur de centre, c'était Henri Richard.
Quand même.
Qui patinait d'une façon incroyable. Et qui déjouait tout le monde, mais il ne voulait rien montrer qu'il était le meilleur, puis il était le meilleur. Il savait patiner, ce gars-là. Lui et Gilles Tremblay, c'est les deux meilleurs patineurs que le Canadien a jamais eu. Et une fois, il déjoue tout le monde, il me fait une part, puis je compte un but. Puis c'est Maurice qui nous arbitre. Puis je reviens au centre, puis je me lève même pas la tête, puis je dis, ouais, si j'avais joué avec Henri, moi aussi, j'en aurais compté des buts. Là, Maurice se retourne, puis il dit, mon petit maudit, t'apprendras que j'ai joué juste 5 ans avec Henri, puis j'étais capable de compter des buts sans lui. Il m'a cru. Henri riait comme un fou, comprends-tu? Il était soupolé, Maurice. Mais Henri puis Maurice, c'était Maurice. Puis Henri, je trouve ça indécent qu'on dise encore c'est le frère de Maurice.
Il n'y a pas eu le
11 coupes Stanley, ouais. Henri Richard.
Il n'y a jamais personne qui va faire ça.
Il n'y a jamais personne qui va faire ça, qui a déjà fait ça. Et pourtant, c'est encore le frère de Maurice.
Et il est un peu parti dans l'anonymat, presque.
Bien, il y a eu l'Alzheimer au dernier degré. Moi, je parlais à sa femme, puis elle disait, « Ça donne rien que l'autre que tu viennes le voir, il te reconnaîtra pas. » C'est malheureux. Mais Henri était très orgueilleux aussi. Henri, il va peut-être m'en vouloir d'en haut, parce que je suis sûr qu'il est au ciel. Mais Henri, des fois, il disait, « Je joue pas au tennis, ma femme me bat. » Henri, exagère pas. Tu sais, je veux dire, parce qu'Henri est un très bon joueur de tennis, un bon joueur de golf aussi, mais il choquait. Je me souviens d'une fois, il a lancé son sac dans l'eau, puis c'est Maurice qui m'a dit au cadet d'aller chercher son sac, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Mais Henri était tellement drôle. Quand on jouait au hockey dans le vestiaire, c'est parce que les gens ne connaissaient pas Henri. Henri était tellement gêné qu'il ne parlait pas. Mais quand il était avec des chums, il m'a dit, il était drôle, tu sais. Puis, encore là, j'ai été chanceux de partager une grande partie de ma vie avec Maurice puis Henri.
C'est beaucoup de voyages, cette carrière-là. Évidemment, on l'a dit, 21 Jeux olympiques, mais c'est aussi la Ligue nationale, le baseball majeur, le golf, le football. Il y a eu à peu près tous les sports.
Oui.
Vous êtes marié avec Louise depuis plus que 50 ans.
52.
Vous avez deux enfants. Est-ce que c'est dur sur la famille, ce métier-là?
Ça dépend beaucoup de la conjointe. Parce que si la conjointe passe pas son temps à chicaner, t'apportes pas ça au bureau. Quand ça va mal à la maison, ça influence sur ton travail. Tandis que Louise s'occupait... Mais Louise avait sa carrière aussi. Louise a été professeure pendant bien des années. Elle a été vice-présidente de la Courte Échelle, la maison d'édition pour les jeunes. Alors, quand j'ai été sous-ministre pendant 3 ans et demi à Québec, elle avait sa carrière à Montréal. Alors oui, c'est des sacrifices à faire. Mais grâce à elle, j'ai pu me concentrer sur mon travail. Mais quand j'étais à la maison, j'étais à la maison. Comprends-tu? Je m'occupais de mes deux petits, mais le restant du temps, c'est Louise qui le faisait. N'oublie pas qu'une certaine période, je faisais les Nordiques à la télévision et le Canadien à la radio. Alors, à ce moment-là, t'es pas mal dans les valises, hein? Parce que t'es presque toujours parti à ce moment-là. Sauf que c'était drôle. On allait à Québec, puis les gens ils me disaient « Hey, on t'a battu aujourd'hui. » J'ai dû compter des buts, moi, là. Puis quand j'étais à Montréal, puis les gens pensaient que j'étais pour les Nordiques, c'était encore... Tu sais, fait que là, j'étais comme partisan des deux clubs, tu sais. Puis c'est pour ça, tantôt, tu m'as demandé Expo Nordique. Moi, j'ai suivi Nordique à la télévision, puis j'ai bien aimé ça, suivre les Nordiques à la télévision, parce que c'était bien spécial. Mais la rivalité était rendue de la folie. Les journalistes se battaient sur la galerie de la presse. Ça n'a pas d'allure, ça.
Oui, d'ailleurs, j'ai entendu cette semaine, on demandait si les journalistes de l'Alberta se battaient comme les journalistes du Québec.
Ça pourrait arriver, parce que là aussi, la rivalité est très, très forte entre... Les Oilers, mais 9 à 6, là, ils exagèrent un petit peu, là, les autres.
Là. Vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai pas assez savouré. Est-ce que ça fait partie des regrets, ça? Parce qu'on l'a dit, il y a des anecdotes, il y en a plein.
C'est peut-être le seul regret que j'ai, dans le sens que j'ai fait une vie extraordinaire, mais j'ai pas assez profité de tous ces moments-là. Parce que quand tu fais une entrevue, c'est peut-être un peu comme toi, quand tu fais une entrevue, tu penses à la prochaine que tu vas faire.
Ben oui.
Alors, pour faire une bonne entrevue, il faut que tu écoutes l'invité. Toi, t'es chanceux, je parle presque pas. Mais...
Ben, ça fait plus de travail pour moi, faut que je trouve des questions.
Non, mais blague à part. Alors, tu sais, d'avoir dans chaque élément, d'avoir... Tu sais, je veux dire, je me souviens des Jeux olympiques où j'avais Jean-Claude Killy, j'avais Léo Lacroix, des grands skieurs, tu sais, toutes les grandes vedettes à ce moment-là. À Londres, mon chauffeur, parce que... Ça fait prétentieux, mais c'est pas parce que j'avais un chauffeur. C'est parce que j'étais très tôt le matin là-bas à cause du décalage. Et mon chauffeur me dit la première journée qu'il me rencontre qu'il avait été le chauffeur de la reine pendant 20 ans. Les anecdotes qu'il m'a contées, c'était incroyable. T'sais, nous autres, la reine, elle a des chapeaux qui sont laids, mais c'est une personne quand même qui a son passé, puis est rendue très vieille, puis est encore digne. Mais je dis, est-ce que peux-tu m'avoir la reine comme invité? Il dit, « Mr. Claude... »«
Pousse pas ta luck. »«
Don't push your luck too far. » Ben, je dis, « OK. » Je dis, « Diana. » Mais il dit, « Veux-tu avoir William et Harry? » Je dis, « Oui. » Fait qu'il m'a amené William et Harry, qui sont très grands en passant. On les voit toujours sur les photos, mais c'est 2, c'est 3, je pense, tout ça. Très gentil. Et ma femme est venue me rejoindre pour visiter Londres le jour, puis on soupait ensemble le soir. Puis là, j'allais me coucher, puis je me levais de bonne heure, puis elle a plein d'enfants, puis etc. Et elle repartait 5 jours avant la fin des Jeux. Puis je trouvais ça à 3 heures du matin un peu dangereux, tu sais. Fait que je l'appelle, le monsieur. Puis j'ai dit, j'aurais une faveur à vous demander. Pourriez-vous venir chercher ma femme pour l'amener à l'aéroport? Il dit, avec plaisir. Fait qu'il vient chercher ma femme à 3 heures. Puis vers 4 heures, il m'appelle, puis il dit, « Mr. Claude, mission accomplished.
» Le chauffeur de la reine a amené votre femme, c'est quand même pareil.
« Mission accomplished. » Puis là, il est venu me chercher pour faire mon émission.
Je vais vous poser la question à deux volets qu'on me pose tout le temps. Le plus fin.
Le plus fin?
Dans les athlètes, c'est qui? Moi, on me le demande dans les artistes, là, mais les athlètes, c'est qui?
Je vais vous dire Nick Price. Il est le champion golfeur pendant 2 ans. Et il est tellement généreux de son temps, c'est incroyable. Je pourrais vous dire Wayne Gretzky, qui a été très gentil aussi. Je pourrais vous dire... Les joueurs du Canadien, on fait à part parce que c'est pas une relation comme les autres. Mais je vous dirais que Nick Price est peut-être dans une classe à part.
Et le pire?
Le pire, c'est John Daly, qui est toujours en boisson.
C'est pas vraiment surprenant.
Qui est toujours en boisson. Tu sais jamais si va te parler ou s'il va t'envoyer promener. Moi, j'ai vu des choses incroyables. John Daly, qui frappe une balle tellement en dehors des limites, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde dit qu'il va en frapper un autre. Non. Il marche jusqu'à 300 verges plus loin. Puis là, il se rend compte qu'il est hors limite. Il remarche en arrière. Pendant ce temps-là, l'autre gars qui joue avec lui, il est dans le milieu du terrain. Puis il a attendu 20 minutes avant de frapper son deuxième coup. Il s'en fout complètement. Mais il faut dire qu'il y avait tellement un gros problème de boisson que tu ne sais jamais s'il est encore tout là, si tu veux, tu sais. Alors, si tu me demandes à brûle pour point comme ça, c'est qui les plus gentils, je te dirais que les grandes vedettes, ils sont gentils. C'est ceux qui se pensent vedettes qu'ils ne sont pas.
Même pas parler de politique.
Pas parler de politique, c'est effrayant.
Parce que vous avez eu une carrière politique.
Ben, j'ai eu une carrière
politique. Une courte carrière politique.
Écoutez, 3 ans et demi, mais il se passait rien présentement à la radio. C'était la grève, le lock-out, etc.
Oui, il n'y avait plus de sport, ben.
Puis moi, je me disais, pas une deuxième année, puis je voulais qu'on fasse quelque chose de différent. Et pendant ce temps-là, M. Charest et M. Fournier me courtisaient pour dire, viens-t'en comme sous-ministre au sport et loisirs, on va avoir du fun, etc. Et je refusais. Et je dois vous dire, bien honnêtement, que j'ai changé d'avis 30 fois. Une des dernières nuits, là, j'ai changé d'avis 3 fois. Alors, j'étais tanné de me dire qu'est-ce qui arrive. Et là, quand j'ai vu qu'il ne se passait rien à la télévision, j'ai accepté. Et j'ai pleuré pendant un mois de temps, parce que je partais un mois plus tard. Je me souviens du dernier match de baseball que j'ai fait avec Denis et Roger. Puis j'ai pleuré parce que j'aime ma job. Je suis arrivé au gouvernement que je ne connaissais pas. Parce que je me disais, j'avais un petit enfant à ce moment-là, puis je me disais, j'aimerais ça qu'il ait une belle vie, puis qu'il soit en forme, puis qu'il fasse de l'exercice, puis qu'on rouvre les gymnases le soir au lieu des fermer, puis etc. Tu sais, j'avais des beaux souhaits. Et M. Fournier a été très collaborateur, même 4 jours après que mon entrée en poste, il m'a donné le mandat de la Journée nationale de l'activité physique au Québec. Et tout le monde a collaboré, puis ça a été bien, bien le fun. Alors, pendant 3 ans et demi, j'ai été sous-ministre au sport et loisirs. J'avais 70 employés, 55 à Québec, 15 à Trois-Rivières pour la sécurité dans les sports. Sur les 70 employés, j'en ai 68 que j'aurais été à la guerre avec eux autres. Il y en avait 2 qui étaient proches de la retraite, qui avaient juste hâte de partir. Mais la machine était lourde à faire bouger. Et
Il y a bien de la paperasse puis de la bureaucratie
là-dedans. D'autres ministères aussi que certains sous-ministres voulaient se donner de l'importance puis attendaient. Et là, je leur envoyais des demandes du premier ministre.
Il laissait traîner
ministre.
Les dossiers.
Puis là, je l'appelais et je disais, puis, ah, ben je sais pas. Comment tu le sais pas? Je disais, c'est ça que le premier ministre veut, grouille-toi, tu sais. Puis mes employés disaient, on va-tu l'avoir, telle affaire? Oublie pas que les soumissions ou les subventions pour toutes les installations sportives passaient par mon bureau. J'avais 2 employés qui s'occupaient de ça. Et on a donné pour 350 000 piastres des terrains de soccer, des arénas, etc. Et 2 de mes employés faisaient la lecture du projet. Puis quand eux autres acceptaient, moi, je signais. Et une fois, ils ont... Joël Bouchard, qui avait son aréna à Blainville, le projet est refusé. Mais j'ai dit, je comprends pas que ça soit refusé. Parce que j'ai dit, c'est pas un aréna comme les autres, c'est un aréna pour enseigner le hockey. C'est très différent. Alors, j'avais appelé Joël Bouchard, puis j'avais dit, Joël, tu vas venir vendre ton produit à mes employés. Et si tu réussis à les vendre, moi, je vais le vendre au ministre. Alors, il est venu, puis Joël a beaucoup de bagou.
Oui,
il a fait une très
bonne
job.
Ouais.
Et ils ont compris que c'était pas un aréna comme les autres, puis il a eu son projet. Fait que je suis très fier de ça. Et si le fédéral avait embarqué, on aurait fait pour 600 000 piastres de projet, mais ils n'ont pas embarqué parce qu'ils donnaient pour les infrastructures, mais pas dédiées au sport. Alors, quand tu as le choix entre avoir 50 lits d'hôpital ou un aréna, ben je les comprends. Mais en même temps, ça n'aide pas le sport et le loisir. Alors,
non.
Et après 3 ans et demi, j'avais un sous-ministre à l'éducation qui était bête comme ses pieds. Fait que je savais que je ne signerais pas un autre 4 ans. Et RDS m'avait dit, avant que je parte, dans 4 ans, est-ce que tu vas revenir pour les Jeux de Vancouver? Ben, j'ai dit, je ne sais pas. On verra. Le président m'avait demandé. Et là, ils ont dit, on fait une émission vers Vancouver. On aimerait ça que tu l'animes. Fait que j'ai donné ma démission. Je suis parti. Puis l'histoire a suivi son cours.
2024, ça va être les Jeux de Paris.
Les Jeux de Paris.
Est-ce que vous voulez les faire? Si on vous le demande maintenant, est-ce que vous diriez oui?
Oui. Ça va me permettre d'amener ma femme. Elle va pouvoir visiter Paris encore une fois.
Surtout que là, on va pouvoir y aller.
Mais 2024, c'est encore loin. J'espère travailler avant ça.
Oui, oui.
Parce que c'est pas vrai que je vais rester à rien faire chez nous. Je fais beaucoup de bénévolat. Je m'occupe de ma soeur qui, malheureusement, est tombée sur la glace. S'est fracturé le poignet. Alors, une plaque d'acier et des vis à 81 ans, c'est difficile. Avec beaucoup de physio. Mon beau-frère s'est fait changer une hanche. Alors, je l'amène marcher, puis je l'amène chez le médecin, etc. Mais ça ne me dérange pas parce que ma grande sœur, c'est une deuxième mère pour moi. Elle s'est occupée quand mes parents sont décédés très jeunes. Mon père a 54 ans, ma mère a 61 ans. Alors, ma grande sœur était... Petite anecdote, le samedi, je regardais le sport à la télévision. J'avais 13 ans. Et ma sœur me disait, « Est-ce que tu sors ce soir? » « Oui. Qu'est-ce que tu vas mettre? » Ben ça. Elle pressait mes pantalons, elle serrait mes souliers pour que son petit frère paraisse bien quand il sortait. Faut le faire. Alors, je lui dois tellement ma grande sœur que ça me dérange pas. J'ai malheureusement perdu une de mes sœurs il y a 4 ans, l'Alzheimer. Et j'en ai une autre qui est encore là, mais qui est assez malade. Elle souffre de la chronic disease, là, encéphalomyélite, myalgie. Mais c'est une battante, puis elle s'occupe également de ma grande sœur. Alors, j'ai une famille tissée très serrée. Puis j'ai 5 petits, comme je vous l'ai dit. Alors, si en 2024, on a besoin de moi, je vais être là.
Une biographie, ne serait-ce que pour les petits-enfants? Est-ce que c'est quelque chose
qui se peut? Ils en ont déjà fait une. J'ai pensé que j'étais mort parce qu'ils ont fait... Quand je suis parti pour le gouvernement, j'ai fait l'émission « Bon baiser de France » avec Franck ouais. Beaudoin. Et il y a quelqu'un qui a fait une biographie de moi qui a duré 1 heure avec tous mes amis qui sont venus parler, etc. Puis le président d'RDS, il avait dit « Je pense que RDS était bon pour Claude, mais Claude était très, très bon pour RDS. » Et mes chums de golf, naturellement, parce qu'on m'avait suivi, et crois-le ou pas, on me suit un trou, je frappe une drive, mon deuxième coup, puis je fais un putt de 20 pieds pour un birdie. Puis là, on raconte ça à mes chums qui sont sur le terrain, puis on dit, oh, ça doit être du montage, ça, c'est pas vrai, tu sais. C'était n'importe quoi. Ah, ben, c'est nous autres qui écrit ces textes. Fait, je disais, ah oui, il me semble que j'ai rien reçu encore, tu sais. Fait que c'était comme presque un bien cuit, mais j'ai déjà eu. Et quand on m'a présenté mon sous-ministre m'avait dit « T'as pas le droit d'avoir ça à la télévision. Les sous-ministres n'ont pas le droit d'avoir de la publicité. » Mais j'ai dit « C'était fait avant que je parte. »« Ah, tu vas arrêter ça. » J'ai dit « Je peux pas arrêter ça. Ça a coûté très cher. Puis, ça va être en ondes. » Alors, mon sous-ministre était en colère et j'avais prévu le coup parce que j'avais dit aux emplois supérieurs « Il y a une biographie qui est faite à mon égard puis elle va passer quand je vais être déjà en fonction. » Et les emplois supérieurs ont dit « Ça ne nous dérange pas parce que vous êtes le premier sous-ministre qu'on n'a pas besoin de présenter à personne, tout le monde le connaît. » Alors, ça a passé, ça a été très gentil. S'il en faut un autre, il va falloir trouver d'autres sujets parce que je parle pas beaucoup. Moi.
Ça va être long.
Ça va être long.
Monsieur Mayotte, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Luc, c'est un plaisir. Merci aux gens qui sont ici. Et au plaisir.
Merci aux gens